Bon, je vais vous lire des passages des premières pages d'Effina. Le début et puis ensuite quelques passages. Une jeune femme va au théâtre un jeudi. Elle voit sur la scène deux hommes, deux comédiens qui entrent alternativement. L'un avec du ventre, un escroc. L'autre, fin et calme, un notable. Quand la pièce est terminée, un acteur vient saluer et à le voir, elle comprend. Il était à lui seul deux hommes. Il est au bord de la scène, la jeune femme au troisième rang. Elle peut compter ses cheveux, la poudre qui masque ses pores. Elle peut se dire que ses sourires sont pour elle. Ce n'est pas dans les réflecteurs que vont plonger ses regards. Il cherche le sien en même temps. Qui est donc ce merveilleux comédien? Le nom de partout explose. Ce comédien s'appelle T. Mais oui, cet homme se nomme T. Son visage ne lui dit rien. Son corps est méconnaissable. Mais le nom est un souvenir. Dans la vie de la jeune femme, ce nom a déjà existé. Il y a eu une lettre. Une lettre a été écrite, elle ne sait quand ni pour quelle raison expédiée. Cet homme, il y a quelques années, jeune et brun. Aujourd'hui ventru, gris. Un homme jeune et solide. Une feuille de son écriture qu'il avait tenue dans ses mains et sur laquelle avait reposé plusieurs minutes son esprit. La jeune femme part en visite au milieu des cartons qui jonchent son débarras. La lettre, l'a-t-elle conservée? L'a-t-elle jetée au papier? Il y a eu des déménagements, il y a eu des départs, des hommes. La lettre a-t-elle dans une caisse passé de maison en maison? Était-elle au grenier quand elle se mettait en ménage? Dormait-elle dans son enveloppe durant les scènes de rupture? Tombait-elle en particules quand se cuisait le souper, quand le téléphone restait muet ou quand de son lit ou du canapé, son esprit nulle part n'errait? L'acteur est au foyer du théâtre. Elle ne retrouve pas ses traits, mais ses T. En tout cas, tous les gens le disent et son nom est sur le programme. La foule la pousse vers la porte, il faut passer devant lui. T la voit et lui dit bonsoir et ça y est, elle peut le féliciter. Elle le quitte en pensant à la lettre, à laquelle elle ne sait plus si elle a répondu, et de retour à son appartement, elle met sur le papier des mots qu'elle sait qu'il ne lira pas. « T », écrit-elle, « elle ne peut pas écrire « cher », car il ne lui est pas cher, c'est ce qu'elle ne comprend pas et pour ça qu'elle écrit. « T », écrit-elle, « ce soir je vous ai vu sur scène et comme je l'ai dit en sortant, je suis subjuguée par votre jeu. Je ne sais pas si la pièce est bonne. » La mise en scène n'est pas mauvaise et le décor m'a paru bien. Mais la finesse de votre jeu m'a emporté loin d'ici. Je suis allée en des endroits dont je ne me souvenais presque plus. J'ai revu des heures et des heures de films à la télé. J'ai été visiter toutes sortes de prisons d'Amérique. J'ai revu les visages des hommes épiés dans les ascenseurs. Ce qui se jouait sur votre peau, je l'ai perçu sans rien perdre. Et vous m'avez expédié hors de l'espace et du temps. Vous êtes devenus des hommes. Grâce à vous, une heure durant, j'ai oublié que je m'appelle Effina. Bientôt, j'aurai 32 ans. J'habite dans cette ville un trois pièces orienté à l'est, avec deux araignées grêles. Mes voisins sont sourds et écoutent du soir au matin la télé. Je sors le mardi les poubelles. Je mange avec des amis. Mes rideaux ne sont jamais tirés. Voici ce que j'avais à vous dire. Il est possible que par le passé, je n'ai pas reçu votre mot comme vous l'auriez souhaité. Je ne sais plus ce que j'ai pensé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Dites-moi, la question me trotte dans la tête. Avez-vous reçu de ma part réponse à votre message? Je me souviens de ma surprise quand je vous ai lu. L'enveloppe, je l'ai ouverte, la lettre s'est faite éclatante et je n'ai pu la comprendre. Je vais ici terminer. Il ne reste qu'une chose à vous dire. Je ne voudrais pas que vous croyiez, que vous voyez en ma lettre une de ces lettres d'amour. L'amour n'est pas entre nous. Une chose différente peut-être, que nous sommes libres de laisser parler ou se taire. Je préfère tout de suite le dire. De mon côté, je souhaite que cette chose ne revienne pas. Il est possible que nous nous voyons encore au hasard de la vie. J'espère que vous ne recevrez plus mes compliments en gardant sur le sol les yeux. Ce sourire éveille des idées que je ne peux définir, mais qui me mettent hors de moi. En vous quittant, j'ai dû m'appuyer sur le mur, et un chauffeur de taxi m'a demandé si j'avais besoin de son aide. Un homme m'a proposé une dose. Un autre m'a demandé mon prix. Mes voisins m'ont observé alors que je montais l'escalier. Ils ont noté mon état et ils pensent que dans quelque temps, il se passera quelque chose de grave ou de difficile. La lettre ainsi terminée, elle la referme avec soin. Elle vérifie que les bords sont bien collés de salive. L'adresse lui est inconnue. Il suffirait d'ouvrir l'annuaire et la lire. Elle pose l'enveloppe sur son bureau où elle attend 17 mois. Puis elle déménage et la jette. Après la soirée au théâtre, T fait à sa compagne le récit de cette rencontre. La jeune femme qui l'a revue, qui n'avait pas répondu. Ou qui avait répondu. Dans sa tête, les choses se brouillent et il ne conserve rien. Si une réponse un jour est venue, elle est depuis longtemps enfumée dans le feu de la décharge. Sa compagne n'écoute pas. La lettre a été écrite en un temps où elle ne fréquentait pas T. Les jours suivants, T pense à écrire. Il ne connaît pas cette femme. Elle n'est pas intéressante ni spécialement sympathique. Il écrit quand même une lettre. « Madame », veut-il écrire, mais la femme est jeune encore, peut-être plus jeune que lui, et il écrit son prénom. Le ton est trop familier. Il ne sait comment commencer. Il se résout à écrire « chère Effina » alors qu'il pense qu'elle ne lui est pas chère et que ça l'ennuie d'écrire. Il n'y a qu'une chose à régler et tout sera terminé. « Chère Effina », trace-t-il, « je vous écris parce qu'il me semble qu'il nous reste une chose à résoudre, une chose qui était restée depuis des ans suspendue et que nous croyons reposée. Nous l'avons sentie tous les deux au bar du théâtre l'autre soir. Vous ne pouvez pas dire non, je l'ai perçue dans votre voix, dans votre façon de jeter n'importe comment les mots. J'ai dû garder les yeux baissés car je ne pouvais vous faire voir ce que j'abrite pêle-mêle. J'ai eu peur que vous le sachiez et de toute manière ce n'est pas un spectacle pour les femmes comme vous. Les femmes comme vous sont fragiles. Les femmes comme vous tombent en pièces. Les femmes dans votre genre sont aptes et vives à s'amouracher. Et vous le savez, j'ai une compagne. J'ai trois fils et une fille ailleurs. Et pas l'intention du tout de reprendre et recommencer. Et de toute manière, vous le savez, l'amour n'est pas ce qui m'anime. Vous savez comme moi qu'hommes et femmes n'ont pas que l'amour pour se joindre. La gamme est vaste et subtile de ces charnières qui nous lient. Ne nous laissons pas simplifier par les romans et les films. » Je reviens à présent à ce moment de la lettre. Oui, j'ai dû écrire une lettre. Il y a des années de ça, je ne pensais qu'à vous écrire. Je me souviens de l'endroit, je revois la lumière des lieux et la couleur du bureau en contreplaqué bon marché où je me suis installée. Ce jour-là, il faisait clair et c'était pourtant bien l'automne. Je sais exactement quels pas et quelles enjambées j'ai fait et quelle promenade m'a subitement décidée à m'asseoir devant le papier. Un étang n'est pas étranger à certaines tournures ridicules que j'aurais pu en des endroits formuler. Les oiseaux et les feuilles des arbres sont sans doute aussi responsables de quelques niaiseries qui auront pu y flotter. Mais je ne veux pas revenir à ce qui était dans le fond. Ce que les mots ont pu porter et ce que j'ai pu demander, je n'ai pas à le découvrir. Il n'y a plus à penser. De vous, je ne veux plus que voir, tel que vous le montriez au théâtre, votre peau jeune mais fripée, vos yeux affolés dans vos cernes, vos orbites brunes sous le fond de teint que vous appliquez assez mal. Vos joues encore donnent le change. Vos cheveux sont mal arrangés et il vous reste 10 ou 15 ans à prétendre encore être amante. T redresse un instant la tête. Il se demande s'il va poursuivre ou s'il faut ici s'arrêter. Il pense à tout déchirer. Il ne le fait pas et la feuille sur la table de la cuisine s'éternise. Sa compagne la parcourt en déjeunant le matin. Elle lui lit chaque jour des phrases. Elle appelle la lettre le feuilleton et T avec elle en rit. À quelque temps de là, des amis invitent Effina au théâtre. Elle ne s'occupe pas du programme, mais c'est comme si elle le savait. Dans la voiture, elle babille comme une première communiante. Car T fait son entrée sur la scène. Il est svelte et ses cheveux bien fournis. Ou bien porte-t-il une perruque? Et T porte-t-il un corset qui comprime son abdomen? Effina n'écoute pas. Elle se concentre sur l'air que T filtre dans son organisme. Elle se concentre sur la manière qu'ont ses lèvres de se rejoindre, sur l'ascension de sa pomme d'Adam, ses doigts boudinés et mobiles. Elle se demande s'il a des poils et à quelle heure il se rase, s'il a un rasoir électrique, la couleur de sa salle de bain. Le spectacle se termine et ses amis au bar prennent un verre. Les comédiens, un par un, comme des rats, sortent des loges. Effina pourrait s'en aller, elle pourrait prendre le bus, elle pourrait dire que sa tête, ses migraines, son estomac. Mais elle a l'envie de voir T. Elle se dit qu'après les années et les années, elle peut bien revoir une fois T. Il ne se souvient même pas d'elle et elle ne se soucie pas de lui. Après ces années et années et années. T est assis dans leur cercle. Les amis d'Effina raffolent de T et elle plaisante avec lui. Elles disent son nom en entier. Effina prend l'attitude d'une femme réservée et calme. Elle la salue T. Et T aussi l'a salué en lui jetant un coup d'œil. Il a molli et vieilli. Son cou est flétri et strié. Sur son front, on voit ses soucis. Sa tête est penchée vers l'avant. Il devrait faire davantage attention à sa personne. Un bourrelet sort sur sa ceinture. Effina calcule qu'avec un peu de soin, il pourrait avoir l'air jeune et mince. Oui, s'il faisait plus de sport. Est-ce que T, dans ses moments de libre, a le souci de faire du sport? T en training, en cuissette. T pédalant dans une salle. Ou en slip à la piscine. T, un homme ridicule. Un homme avec des poches, des cheveux qui laissent voir son crâne et des poils dans les oreilles. Un homme usé et légèrement pitoyable dans sa façon de livrer innocemment son visage, comme s'il était séduisant. Ses yeux sont pointus, minuscules. Ses yeux sont devenus clairs, alors que ce qui composait T, c'était deux cavités sombres. T est un homme révolu. Son charme est resté sur les planches. La lumière est en train de baisser. Son image est grise. Elle s'efface. De la bouche de T sortent de plates syllabes. Sa nuque est molle et courbée. Il ne fume plus de cigarettes. Il commande une eau minérale. Les amis rient et s'exclament « T !» Effina va aux toilettes. À son retour, T au bar discute avec d'autres gens. Dans la voiture, ses amis encore s'extasient. T, le séduisant, l'enjôleur, le bel acteur qu'aiment les femmes. Effina tire un trait sur lui. T, dans son lit, repense à la soirée au théâtre. Il a bien joué, son jeu est de plus en plus fin. Dommage que ses partenaires n'aient pas été au niveau. Les partenaires, quelquefois, gâchent le plaisir du jeu. Et ses spectatrices au bar, elles étaient un peu agitées. Et c'est Effina au milieu. Effina était avec elle. Il a de la peine à le croire. Il n'arrive pas à la coller à ce groupe d'admiratrices. Peut-être parce qu'elle ne parlait pas. Peut-être parce qu'elle souriait peu. Peut-être parce qu'elle était sans forme. Ou bien parce qu'il était visible qu'elle réfléchissait à côté. Cette Effina est une femme somme toute déplaisante. T près d'elle se sent mal à l'aise. Auprès d'elle, il compte ses mots et sa personne devient mécanique. Il n'est pas tout à fait lui-même en présence de cette Effina. Heureusement qu'il ne lui a pas fait parvenir les lettres qu'il lui écrit depuis des lustres. Heureusement, et l'histoire enfin est réglée. Cette femme n'est plus rien pour T. D'ailleurs, c'est une preuve, il n'a pas senti d'émotion. Il n'était même pas étonné. Il ne s'est senti ni transporté ni troublé. Son sentiment, se dit T, quand il a vu Effina dans le fauteuil rouge, avec son verre à la main, a été de se demander si elle buvait du champagne ou si c'était du vin blanc. Oui, sans doute, un vin pétillant. Il y en a au théâtre. Un prosecco, à coup sûr. T a eu l'idée de boire une flûte de champagne. Mais il a commandé de l'eau et ses femmes l'ont assailli. Non, vraiment, pas une étincelle d'émotion à découvrir Effina assise au foyer du théâtre. Son cœur n'a pas battu la chamade. T ne s'est pas empourpré. Il l'a saluée avec calme. Il a remarqué ses bijoux. Ses bijoux étaient-ils en or ou étaient-ce des boucles en ferraille? De la ferraille. Effina n'est pas raffinée. Elle n'est pas une femme de goût. T aime les femmes de goût. La conversation s'est tissée et à aucun moment T n'a eu l'envie de lui parler. À aucune minute de cette soirée. D'ailleurs, il n'aurait rien à lui dire. Alors, cette histoire est finie. Oui, elle est bel et bien terminée, puisque T a même remarqué les chaussures que porte Effina. Ça, il l'a trouvé regrettable. T donne de l'importance aux pieds. Il aime les femmes à talons. Il comprend que ce ne soit pas pratique et que ça puisse faire mal au dos. Mais T pense qu'une femme évolue au moins à 3-4 cm. À moins de 3-4 cm, T juge qu'une femme ne l'est pas. Au-dessous de 3 cm, une femme est un être humain. T n'a pas du tout apprécié les choses qu'Effina porte aux pieds. Il lui a suffi d'un coup d'œil, Effina est sans intérêt. C'est parce qu'elle est sans intérêt qu'il a pu passer la soirée à presque 60 cm d'elle sans que son corps ne s'emballe. Il n'a pas noté le moindre émoi, il n'a pas pensé à sa peau, il n'a pas pensé à ses jambes. Au contraire, il s'est senti agacé par les mouvements de ses yeux. Ne peut-elle pas regarder droit, s'est dit toute la soirée T, tandis qu'Effina fixait son verre ou la table. De sorte que T se demande si ses yeux sont marrons ou bruns. Et pourquoi est-ce qu'elle s'obstine à porter ce fard à paupières? Ce bleu n'est pas la bonne teinte. Ce bleu irait à une blonde, pas à une brune simple comme elle. Est-ce qu'elle se prendrait pour une blonde? Est-ce qu'elle se croirait éclatante? Est-ce que cette Effina penserait qu'elle peut se permettre de porter du fard comme si elle était belle? Elle ne l'est pas et quelle folie de lui avoir écrit ses lettres. Ses lettres étaient du fantasme. Il s'est adressé à une femme qui n'existe pas. Il faut qu'il s'adresse à la vraie et l'autre sera effacé. Cette nuit-là, il se lève et il s'installe à la table. Il prend son bloc à carreaux. « Effina, » écrit-il, et cette fois, il ne lui vient pas d'écrire « très chère amie » ou « ma chère », comme il l'a osé certaines fois. « Je vous ai vu ce soir au théâtre. » Non, ce n'est pas ça. Il recommence une autre feuille. « Effina, nous nous sommes vus au théâtre. Excusez-moi si je vous écris de cette façon brusque et franche. Je ressens le besoin de vous dire que vous n'êtes pas proche de moi. J'ai cru comprendre sous vos paupières quelques œillades intéressées. Le dire une bonne fois, vous n'êtes rien. Il ne s'est jamais rien passé. Il est stupide de votre part de croire que nous serions liés. J'ai une femme dans ma vie, et pardonnez-moi si je vous blesse, elle m'est immensément plus précieuse que toutes les femmes que je connais. Vous y compris, Zéphina. Il faut vous le mettre dans la tête. Puisque nous sommes en quelque sorte étrangement de vieilles connaissances, permettez-moi de vous le dire, faites attention à vos manières et soignez mieux vos habits. Si vous désirez plaire aux hommes, n'ayez jamais l'air d'avoir peur que votre présence les ennuie. Buvez du champagne ou du rouge. Cessez de vous farder les yeux. Prenez l'air plus gai et aimable. Les hommes désirent s'amuser. Parlez un peu, bougez, riez. Vous avez l'air d'une muette. Excusez-moi de vous le dire. J'ai pour vous comme une tendresse qui subsiste malgré tout, encore, et je me sens un peu responsable de vous trouver dans cet état. À ce moment, la compagne de T s'éveille et elle le réclame dans le lit. T laisse la lettre et rejoint son ami qui n'a plus envie de dormir. Le lendemain, il fait disparaître la lettre, mais Effina ne le quitte pas. Il comprend qu'il doit lui écrire. Oui, une bonne fois lui écrire, et tout sera effacé. Écrire à la femme qui l'a vue. Effina, écrit-il, je me permets de vous écrire puisque nous nous sommes croisés l'autre soir. Nous n'avons pas pu nous parler et je sens la nécessité de noircir encore une page. Dès que je vous ai vu, je l'ai compris, il n'y a rien eu entre nous. C'est ce que je voulais vous dire, que c'était du vent, que tout est mort et que j'en suis soulagée. Je suis sûre que vous l'êtes aussi, mais peut-être saviez-vous déjà que nous n'avions rien à nous dire et vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai repris le stylo. C'est que je veux que tout soit clair. Je veux raser tous les fils. Vous m'êtes très indifférente. Vous êtes une femme quelconque et j'espère l'être aussi pour vous. Je souhaite que vous trouviez dans cette vie le bonheur, car, si j'ose m'avancer, vous ne m'avez pas paru extrêmement épanouie. Recevez mes meilleurs messages, T. Il est furieux de sa lettre. Les mots sont encore trop liés et trop attachés à cette femme. Elle va croire qu'il veut la revoir alors qu'il dit le contraire. Il prend une feuille blanche. « Madame, vous serez sans doute étonnée de recevoir de moi une lettre une seconde fois dans votre vie. Je n'ai qu'une chose à vous dire, que je regrette de tout mon être d'avoir écrit la première. Quand je vous ai vue l'autre soir, j'ai compris que je m'étais trompée et que vous n'auriez pu m'accorder la chose que je demandais. Vous m'envoyez soulagée. Vous n'êtes pas du tout mon genre et vous avez eu bien raison de ne pas y donner de suite. Nous ne sommes pas de la même espèce. » Recevez, chère madame, mes salutations distinguées. La lettre est encore trop furieuse. T fait un quatrième essai. Madame, je me permets de vous écrire suite à notre rencontre l'autre soir. Il me semble que c'est à vous, pardon si je n'en suis pas certain, que j'ai, il y a des siècles, expédié un message. Si c'est le cas, et si vous vous en souvenez, je vous prie de m'en excuser. C'était un geste de jeunesse irréfléchi et stupide, et je ne pensais pas un mot de ce que j'y exprimais. L'autre soir, je l'ai bien compris. Dès que je vous ai vue assise, vous n'êtes pas celle que je supposais. Avec mes salutations théâtrales, non, avec mes salutations les plus distinguées, non, les meilleures, non, les plus cordiales, non, avec mes salutations, T. Cette lettre ne convainc pas T. Il n'arrive pas à écrire à cette dame. Il s'énerve et il trace enfin. Madame, je me permets de vous écrire puisque nous nous sommes croisés au bar du théâtre l'autre soir. Vous voir m'a soudain rappelé une histoire ancienne, oubliée. Il y a longtemps que j'aurais dû écrire pour éclaircir les choses, mais j'avais oublié votre nom et cette histoire est si vieille. Aujourd'hui, je désirerais quand même m'excuser d'une lettre que je vous avais envoyée. Il y a de ça plusieurs lustres. Peut-être l'avez-vous oubliée, mais il me paraît important de le préciser. Cette lettre ne vous était pas destinée et je ne sais suite à quelle confusion je vous l'avais adressée. J'ai échangé des enveloppes et fait arriver entre vos mains ce qui s'adressait à une autre. Du reste, ce n'est pas bien grave, car n'ayant pas eu de réponse, j'ai supposé que l'erreur était évidente. Je vous en remercie donc et je vous prie d'agréer, madame, mes salutations distinguées, non, mes salutations les meilleures, non, les plus confuses, non, mes salutations respectueuses, bon, mes salutations distinguées, T. Voilà, c'est fait. T relit sa lettre. Ainsi, cette dame saura enfin que tout était imaginaire et qu'elle ne doit rien à T. Il a trouvé son adresse et il se rend à la poste. Il reste debout devant la boîte. Il fait obstacle aux clients qui veulent poster leur courrier. Une petite inspiration et voilà la lettre dans la boîte. Cette boîte est déjà pleine d'enveloppes. La sienne tombe au sommet du tas, ce qui rassure un peu T. S'il se ravise, il pourra la récupérer en glissant ses doigts dans la boîte. Oui, même avec des doigts boudinés, il voit qu'on peut l'attraper. T s'en retourne en vitesse. C'est l'heure de jouer au théâtre. Voilà. Je lis un passage plus loin qui concerne Effina. Cette fois, ça y est, Effina est amoureuse. Elle ne s'ennuie plus sous la couette. Le prince charmant s'appelle Raoul. Il est grand, noir, il est sensible, intelligent, et Effina est à son bras aux quatre coins de la ville. T les aperçoit à plusieurs reprises avec le chien dans le parc. Il les aperçoit au théâtre, il les croise une fois dans la rue. T sait que le hasard existe, mais bon sang, on dirait qu'il n'y a que ses amoureux dans la ville. Effina redécouvre qu'un corps s'utilise dans tous les sens à la fois, qu'une tête peut servir de brosse à lustrer l'entrejambe, qu'un nez peut entrer dans un sexe, qu'un sexe peut trouver du plaisir à se loger sous un genou. Des carrés de peau chatouilleux sont placés partout sur le corps. Une langue fourrée dans son oreille, des mains passées sous ses pieds, un ventre sur ses omoplates. Effina est au septième ciel. Raoul lui prend tout son temps. Elle pense à lui quand il n'est pas là. Elle dort avec lui. Elle part avec lui en vacances. Elle mange ce qu'il cuisine, elle écoute les musiques qu'il aime et lit les livres qu'il lui recommande. Cet état de fait est connu et on en débat autour d'elle. Certains amis sont d'avis qu'Effina devrait être prudente, et qu'elle ne devrait pas se laisser entièrement envahir. Elle devrait garder une portion de jardin secret et ne pas ouvrir comme elle fait de pays de frontière à frontière. Ne pas être ainsi béante, réfléchir et penser pour elle, conserver ses goûts, ses amis, ne pas dire toujours oui à Raoul. D'autres amis, au contraire, trouvent charmant ce qu'elle vit et aimeraient connaître une fusion pareille. C'est beau de les voir ensemble. Un beau couple, Effina et Raoul. S'ils pouvaient avoir des enfants, il faudrait qu'ils fondent une famille. Dommage, c'est un peu trop tard. Effina n'aura plus d'enfants. Et puis son fils vit chez son père. Heureusement, ils ont le chien. Raoul et Effina passent des heures à rigoler sur le chien, à parler de ses aventures, à le faire courir après ses jouets. Ils lui choisissent des boîtes et ils l'emmènent chez le vétérinaire. Effina est heureuse que Raoul aime cette bête. Non seulement il aime Effina, mais il aime de surcroît son chien. L'amour de Raoul est total. Il lui fait souvent des cadeaux, aux anniversaires et pour la Saint-Valentin. Mais Raoul n'est pas si commun. Il lui fait en plus des surprises et il y arrive toujours à lui faire plaisir. Effina ne fait sûrement pas autant de cadeaux à Raoul. Elle dit pour s'en excuser qu'elle n'a pas d'imagination et qu'elle a trop peur de faire des erreurs. Elle a peur de le décevoir. Il est arrivé qu'elle lui offre des choses qui ne lui plaisaient pas. Des choses qui l'ont laissé de marbre. L'écharpe noire, par exemple, ou la boîte étanche à cigares. Il est vrai que Raoul ne fume pas, mais l'objet était bon marché, et si on reçoit un cigare, il faut avoir où l'entreposer. C'est ce qu'Effina a expliqué à Raoul. Et aussi qu'elle ne sait pas toujours ce qu'il peut désirer. Elle ne cerne pas toujours ses goûts. Oui, puisqu'il est arrivé qu'elle se trompe. Qu'il se rappelle la ceinture, qu'il pense aux boutons de manchette, qu'il se remémore les BD. Non, les cadeaux, de son côté, il vaut mieux éviter. Elle dit qu'elle le gâte autrement. Elle lui montre autrement l'amour. Quand même, les boutons de manchette restent à présent dans un tiroir. Ils ne sont jamais portés. Ils ont coûté une petite somme. Effina pense qu'ils iraient parfaitement à T. Elle sait qu'ils plairaient à T. Elle ne peut pas dire comment, mais elle sait, ces boutons de manchette plaisent à T. Et idem pour l'écharpe noire. Elle sait que T porte un foulard. Elle l'a vu, son petit foulard. Eh bien, elle sait avec certitude que si T voyait cette écharpe, il serait tout de suite emballé. Si T voyait l'écharpe noire serait adoptée. Il n'y aurait pas d'instant pénible comme avec Raoul, pas de silence et de remerciements constipés. Non, avec T, il n'y aurait pas de remerciements, mais l'écharpe passerait à la seconde même sur son col, et elle y resterait l'hiver. Et si Effina se rappelle, Une fois T a fumé sur la scène. Bon, peut-être bien qu'il n'aimait pas ça, et peut-être que c'était seulement pour les besoins de la pièce. Eh bien, quand même, Effina sait que T n'est pas si borné, et qu'il peut envisager un jour de fumer un petit cigare. Et la boîte serait bien chez T. L'idée se développe dans sa tête d'offrir à T l'écharpe noire, d'offrir les boutons de manchette et d'offrir la boîte à cigares. Pour ça, il faudrait bien s'y prendre. Il ne faudrait pas froisser T. Il ne faut pas qu'il se sente obligé. Elle pense à faire livrer dans les loges un paquet avec une carte du genre « de la part d'une admiratrice » ou « de la part de votre amie » et ainsi T ne pourrait pas retourner le paquet et Effina aurait une chance d'apercevoir l'écharpe un jour à son cou. Oui, mais si T ne voulait pas accepter une écharpe anonyme et s'il la donnait à ses fils. Si T, il est très impulsif, la donnait à l'éclairagiste. Si T, il est un grand distrait, la laissait derrière lui dans les loges. S'il la perdait dans un bar. Non, il faut que T sache que l'écharpe vient d'Effina et alors il en prendra soin. Effina se met à fréquenter de nouveau les salles de théâtre. Elle porte à son bras un sac où l'écharpe noire est roulée. L'écharpe est volumineuse et elle a dû renoncer à sa pochette en résille. Raoul s'ennuie au théâtre et il essaye de la garder avec lui devant la télé. Mais Effina est inflexible. Elle a une passion pour le théâtre. Elle ne peut plus s'en passer. Il n'y a qu'une chose dans sa tête, offrir l'écharpe noire à T. Ce n'est pas chose facile. D'abord, T ne se voit plus beaucoup sur les scènes. On dit que c'est parce qu'il est célèbre. Il a engrangé de l'argent. Il peut se permettre de souffler. Les rôles, il peut les prendre ou les laisser, comme ça lui chante. La vérité, c'est que T n'est plus beaucoup demandé. Il a une belle stature, il a un physique de lion, il a un charisme renversant. Il est buriné et tanné. Son visage raconte des histoires avant même qu'il ouvre la bouche. Et sa voix profonde est un mythe. T est un monument humain, mais T est aussi imprévisible. Il n'est plus du tout fiable. Il ne vient pas aux répétitions. Il ne sait pas toujours ses textes. Il se mêle de la mise en scène et traite les acteurs de gamins. Il couche avec les jeunettes. Deux fois, il a fait un esclandre et on a dû le remplacer. Ou alors, il est prostré, vide. Non, ça, les metteurs en scène n'ont pas envie de le vivre. Ils ne peuvent pas prendre de risques. Ils engagent toute une production. Alors, on appelle presque plus T. Ou à la rigueur, pour des textes enregistrés en solitaire dans les studios de la radio. Mais quel dommage, disent parfois les metteurs en scène quand ils se rencontrent au café. Quel dommage, disent les maquilleuses, les régisseurs et les directeurs. On ne voit plus T, dit le public. Mais c'est comme ça, c'est ainsi. T est un Titanic en train de pencher vers l'abysse et il n'y a pas de remède. La solution n'est pas sur Terre. Ou alors, il faut l'inventer. Mais T, de plus, quand il joue, se montre peu au bar des théâtres. Il n'aime pas ses admirateurs. Il a passé, étant jeune, des soirées à être encensé dans les foyers des théâtres. Mais à l'âge qu'il a maintenant, avec son expérience du métier et les lauriers que lui ont tressés les critiques, même dans des langues étrangères, avec l'auréole qui entoure son nom quand on le prononce, il peut se permettre de s'en aller comme un fonctionnaire du théâtre. Il s'en va à peine les projecteurs éteints. Il sort dans la rue et voilà, il a l'air d'un simple quidam. Il se couche tôt ou alors il prend un verre au café. Un verre tout seul, dans une brasserie, en regardant les poivrons. Écoutez les poivrons dans les bars, voilà, eux ils font du théâtre, là sont les vrais comédiens. T les regarde dire leurs tirades et leurs monologues. Il pense à ses rôles passés et, il fait un métier de carton. Un homme sandwich, c'est ce qu'il est. Un métier qui laisse sur sa faim. On est toujours en surface. On joue, on meurt, qu'est-ce qui reste? Des souvenirs dans la tête des gens. Pour cette raison, les acteurs doivent trouver la reconnaissance. Ce métier n'apporte que du vent. Leur vie sans la gloire serait creuse. Il faut la combler de louanges. Et des louanges, T en a eu plus que son comptant, plus que son dû. Jusqu'au dégoût, il a vu sa tête, gaufrée et cloquée, comme il dit, dans tous les journaux du pays. Il ne fait même plus attention. Il déteste les articles qui le mentionnent et méprise les journalistes qui s'arrêtent à parler de lui. Ces gens ont-ils une décence? Ces gens n'ont pas d'originalité. Ils ne pensent pas à la nouveauté. Ils bêlent avec le bétail. Ils ne cherchent pas la fraîcheur. Aucun désir de pureté. Ils aiment mariner dans la soupe, une soupe infecte de 30 ans. Mais T se connaît par cœur. Il aimerait qu'on jette la soupe et qu'on parle maintenant d'autres gens. D'accord, il est un grand comédien. D'accord, il a fait de belles choses. Il y a quelques beaux souvenirs. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Il est chez les Poivreaux. Il boit un verre. La vie de T ne va pas très bien. D'une part, il y a le théâtre. La conjoncture est mauvaise et on produit moins de spectacles. T est descendu dans la rue avec les gens de sa profession. Mais qui se soucie des artistes? La manifestation s'est effilochée et tout a fini au bistrot. T n'est pas engagé souvent. Longues sont les semaines de chômage. D'autre part, il y a ses histoires avec les femmes. Il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a presque plus de libido et en même temps, il persiste à draguer les femmes. Les serveuses, les passantes, les admiratrices, tout ce qu'il peut. Ce qu'il met dans la situation de se retrouver souvent encombré au lit d'une dame dont il n'a pas usage. Il s'en sort en tombant endormi au début des préliminaires. Les femmes le réveillent plusieurs fois, puis celles qui sont douces et patientes dorment avec lui. Celles qui ont un sale caractère quittent la chambre avec un mot méchant, quelquefois par écrit, qu'il conserve. C'est ces dernières qu'il préfère. Il a ainsi le champ libre et il peut ressortir la nuit. Il est devenu insomniaque. Quelquefois aussi, il est grossier et il demande à la demoiselle de quitter la chambre et ça finit mal. Il ne sait pas ce qu'il prend. Une fois la femme dans la chambre, il n'a plus envie de rien faire. Il aime les femmes qui résistent et il méprise celles qui disent oui. Il fait souvent exprès d'être sale. Il ne se lave pas les cheveux et il regarde les femmes minauder devant sa grosse tête grise et grasse. Il observe comment les femmes disent oui à peine il commence les approches. C'est devenu vraiment facile. T se demande si le monde n'est pas peuplé d'infirmières. D'infirmières, de mamans de nuit, de vivandières, de samaritaines et de nurses. De mains fraîches et bénévoles pour le consoler quand il flanche. Elles en ont sans doute besoin, se dit T qui sait bien jouer les hommes un peu malades et sensibles. Et tyrannique, ça va de soi. Tout ça occupe et ennuie T. Mais ça ennuie encore plus la femme chez qui il a élu domicile. Elle exige des éclaircissements. Et T lui jure 30 fois par jour qu'elle est la femme de sa vie et qu'il ne la trompe jamais. Ce qui, dans le fond, n'est pas faux. Il ne se souvient d'aucun nom. Et il est arrivé qu'il aborde la même femme plusieurs fois de suite. La femme chez qui il habite le croit sur parole. Elle est flattée de loger chez elle le vieillissant comédien. Ses amis la questionnent et elle en discute longuement. Elle ne dit pas tous les détails, le linge sale dans toute la maison, les ronflements, la mauvaise humeur continuelle et les fugues de 2 ou 3 nuits. Elle dit qu'elle a beaucoup de chance et qu'un artiste donne beaucoup. Oui, beaucoup, énormément. Un artiste, ça donne beaucoup. Alors il est bien normal d'accepter quelques petits arrangements. T, quand il fugue, ne boit pas, comme le supposent certaines gens. Par chance, il n'a jamais réussi à supporter l'alcool. Ça doit être sa constitution. Son corps a l'air fort, mais il est fragile. Il a peur de mourir du foie, comme son grand-père paternel. Ou de la rate, comme sa maman, ou du poumon, comme son beau-frère, ou du cancer du côlon, comme une cousine germaine. Il se fait du souci pour son organisme. Le médecin pourtant dit qu'il n'y a rien, il n'est pas malade, mais il faut davantage d'hygiène, il faut davantage se promener, dormir et éviter de fumer, et bien sûr éviter l'alcool. Pour ça, T a de la chance, il ne fume plus et il ne boit pas. Quand il fugue, il va au café et le soir, il dort à l'hôtel. Il s'assied sur un banc dans le parc et il regarde les jardiniers renouveler les oignons. Il regarde les chiens qu'on promène. Il s'intéresse à ces chiens. À force de les revoir, il se demande ce qui peut se passer derrière leurs yeux et comment la vie leur apparaît. C'est ainsi qu'il voit Effina. Il voit Effina dans le parc. Elle promène un chien d'une couleur qui dit que c'est un chien de race. Un chien avec des reflets argent et une laisse rétractable. T de loin la voit et parfois il revient au parc avec cet espoir, certains jours il n'y va justement pas par peur de la croiser. Il a pu noter qu'elle a une allure différente. Elle porte des jupes aux genoux. Elle fait un peu plus attention, mais sa coupe de cheveux la désavantage. T pense que les femmes de cet âge ne peuvent plus se coiffer ainsi. Il a aussi remarqué qu'elle porte des choses à talons. Oui, mais Effina, encore une fois, n'a pas bien compris la leçon. Ses chaussures à talons épais, ce cuir large... Décidément, elle ressemble à une secrétaire. T un jour ira lui parler. Oui, il faudra un jour que T lui donne un cours sur son habillement. Il la voit avec un garçon. Ce garçon serait-il son fils? Effina a peut-être des enfants. Ce sont des détails qu'il ne retient pas, et d'ailleurs, il s'en rend compte. De cette femme, il ne sait presque rien. Il voit passer Effina avec un homme à son bras. Oh oh, les choses ont l'air sérieuses, se dit T quand il les voit s'embrasser sur la bouche discrètement. Et il surveille de son coin pour voir comment vont les affaires. Il est content, et Fina n'a pas l'air trop amoureuse. Ça se comprend du reste. L'homme à côté d'elle est fade, aucune consistance, aucune teinte. Et T à côté l'éclipserait de ses feux. Parce que s'il y a une chose que T sait, c'est qu'il a un sacré charisme. Une autre fois, il ne la voit pas, et c'est normal. Il pleut à verse. T persiste à rester sur le banc. Les passants tournent la tête à cause du vieux SDF. Une femme lui offre un sandwich, mais T persiste à rester parce qu'un chien sort même sous la pluie. Voilà. Merci.
C'était Noël Reva avec des extraits de son roman Effina, enregistré le 28 septembre 2009 à Genève.